Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro en ce 14 mai, les séries éliminatoires qui poursuivent leur cours. La deuxième ronde qui est bien en branle. Toutes les équipes sont toujours là parce que, bon, il y en a certaines qui s'accrochent, dont les Hurricanes après un mauvais début de série contre les Rangers. On est toujours de la partie, donc bien évidemment, aujourd'hui au balado, on va parler de tout ça avec mes deux invités, Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, messieurs. Bon matin.
Bonjour, d'Edmonton, où tu couvres présentement la série entre les Canucks et les Oilers. Et exact. Pour nous accompagner, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, les gars.
Guillaume qui a pris une toute petite pause des séries de la LNH pour aller couvrir la fin, on verra bien, là, mais la finale de la LHJMQ, donc le trophée Gilles Courtois, donc on te parle ce matin alors que tu es à Drummondville.
Oui.
On va le dire, tu nous as envoyé une photo un matin pour nous montrer l'ambiance que tu avais il y a quelques jours alors que tu étais en Floride devant la piscine et ce matin sous le pluvieux ciel du centre du Québec. Donc,
ouais, avec une belle terrasse extérieure qui donne sur la 20. C'est un changement assez drastique d'environnement, mais bon, regarde, on a vu du bon hockey, fait qu'on s'en plaindra pas.
Ouais, c'est ça, là. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais bon, on va te rester seulement aller chercher une poutine du côté de... Soyons francs, la poutine au centre Marsadienne, elle est assez solide, donc tu risques de t'aventurer.
Je devrais faire le test, peut-être ce soir.
Peut-être ce soir, donc on verra bien. Donc oui, bon les gars, on va se lancer, parler de tout ça avant d'y aller. Chers auditeurs, ben je vous invite, comme toujours... vous abonner si vous nous écoutez, plateforme de diffusion, peu importe laquelle, Apple, Spotify, Google, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous pour être certain de ne jamais rater un balado parce que, ben, comme vous voyez, on se lance en ce mardi matin. L'horaire des séries fait que on est moins régulier au niveau de la journée où on enregistre, mais on enregistre aussi souvent. Là, JF et Guillaume, quoi, c'est votre combientième? Là? Il me semble que c'est votre troisième, quatrième de suite là, environ. Là, donc,
on est sur une lancée.
Ouais, une fois par semaine.
Oui, une très belle lancée. Les gars, on va revenir sur ce qui s'est passé lundi soir dans la LNH. Bon, j'en ai glissé un mot. La série Hurricane Rangers... soudainement, on a une série, là, parce qu'à 3-0, ça regardait très mal pour les Hurricanes. Et, si vous voulez encore mon avis, là, je veux dire, ça regarde encore très mal à 3-2, parce qu'on se doit d'aller chercher deux autres matchs, 4 de suite contre une puissance contre les Rangers. Mais somme toute, au moins, on a une série. Là. Hier, on est revenu, on a marqué 4 buts en troisième période pour l'emporter 4-1 dans un match où les Rangers n'ont pas très bien paru. Je pense qu'on a eu un excès de confiance hein, chez les New-Yorkais.
Mais c'est peut-être un retour du balancier dans cette série. Les Rangers menaient 3-0, mais est-ce qu'ils méritaient vraiment d'avoir une aussi grosse avance après trois matchs? Je pense pas. Igor Shesterkin avait probablement faussé la donne un petit peu. Kuznetsov hier qui marque encore, qui fait l'oiseau. Donc, les Hurricanes veulent s'envoler un petit peu. Maintenant, reprennent vie. On s'attendait honnêtement à une longue série entre les deux équipes. Je crois qu'on va l'avoir. Hâte de voir l'ambiance aussi du côté de Raleigh pour un sixième match. C'est le type de match que les Rangers ont intérêt à ne pas échapper parce que si tu reviens à 3-3, c'est le cliché, là, mais le septième match, quand l'autre équipe vient d'en gagner trois d'affilée, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si une remontée de 0-3 à 4-3, ça reste très, très rarissime dans l'histoire de la Ligue nationale. Quatre fois, je pense seulement, si je me trompe
pas. Quatre fois sur 219 possibilités. Donc,
exact. Donc, les Rangers ont toujours l'avantage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la profondeur des Rangers, mais c'est une belle série pour une série de deuxième tour. Disons que c'est un choc de titan.
Oui, puis je veux dire, la situation fait que le pied est facile à lever là, chez les Rangers, là, quand tu vas chercher des victoires avec des victoires. Puis c'était des victoires, comme tu as dit, des victoires qui étaient serrées. Mais ce qui a fait la différence, justement, depuis le début de la série, c'est les unités spéciales. Puis c'est là que les Hurricanes n'ont pas été chercher les buts qui auraient dû leur permettre d'aller gagner un des trois premiers matchs. Parce que, bon, ça s'est terminé toujours par un écart d'un point, parfois en prolongation. Mais souvenez-vous que les Hurricanes de la Caroline, en saison régulière, c'est la deuxième meilleure équipe en avantage numérique. Et depuis le début de la série, plutôt, on fonctionne seulement à 5 %. Donc, on est loin là, de ce qu'on avait en saison. L'infériorité numérique aussi, ce n'est pas un succès. On était la meilleure équipe de la Ligue cette année et là, on est cinquième à 76,5 %. Donc il y a, du côté de la troupe de Rod Brédamo, juste si on parvient à, un, à être discipliné, puis ça va être la clé pour le reste de la série, mais aller chercher le gros but quand il faut, déjà là, il y a le vent risque un peu plus de tourner à notre avantage. Quand je parle de discipline, entre autres, Evgeny Kuznetsov, tu sais, qu'on a été chercher à la date limite des transactions, je trouve qu'il manque de discipline dans cette série-là. Andriy Svechnikov aussi, je trouve qu'on est capable de faire mieux du côté de Svechnikov, que ce soit au chapitre de la discipline. Même, je veux dire, de son côté, il y a 4 points en 5 matchs dans la série. C'est sur la glace que tu dois être à ce moment-là, c'est pas sur, au banc des punitions. Mais bon, on verra bien. Au niveau de... Je regardais un petit peu là, au niveau de des Rangers, parce que là, on parle des Hurricanes depuis tantôt. Les Rangers, les gars, on en a parlé un petit peu, je pense, dans le dernier balado, mais Alexis Lafrenière continue cette belle lancée. Pas de point hier, là, mais de toute façon, hier, l'attaque des Rangers, on oublie ça. Mais Lafrenière est lentement, mais sûrement, en train de devenir le joueur qu'on espérait. J'ai regardé un petit peu ses statistiques. Puis j'en ai parlé là, avec Philippe Boucher, sa chronique est sur LNH.com ce matin. Mais Lafrenière est vraiment en train de... Bon, depuis le début de cette série-là, meilleur pointeur des Rangers, meilleur à égalité avec Panarin, meilleur buteur de l'équipe. Il est arrivé, là, Lafrenière.
Mais moi, je me souviens d'une conversation avec Alexis avant le début des séries du côté de Tarrytown. Puis Alexis, l'an dernier, ça avait été aucun point en 7 matchs en série. Les Rangers avaient perdu en 7 contre les Devils. Puis je lui avais parlé, est-ce que tu as le sentiment que tu dois rebondir cette année, que tu as plus de choses à prouver, autant individuellement que collectivement? Puis Alexis, sa réponse était cliché, mais c'était « c'est l'an dernier, c'est terminé, j'y pense même pas, je veux attaquer les séries avec un bon état d'esprit ». Puis jusqu'à présent, c'est un pari remporté pour Lafrenière. C'est 10 points en 9 matchs. Il est troisième marqueur chez les Rangers derrière Zibanejad et Trocheck. C'est clairement un joueur d'impact. Dans le troisième ou dans le quatrième match contre les Hurricanes, c'est lui le meilleur patineur sur la glace par 1,5 km. Lafrenière avec Kreider, les deux sont jamais sur la même unité. C'est deux bons patineurs ou rarement sur la même unité. C'est vraiment l'éclosion pour Lafrenière, mais ça se poursuit aussi avec sa belle saison. Quand même frôlé le plateau des 30 buts cette saison. C'est un joueur qui a frôlé également les 60 points. Donc Lafrenière, à 22-23 ans, devient le joueur que les Rangers espéraient quand ils l'ont réclamé au tout premier rang.
Et tout ça a joint sur la... Parce que les gens parlent des points, puis ils disent, bon, 57 points, c'est pas non plus fantastique pour un premier choix au pêcheur. Je reste que, contrairement à la majorité des premiers choix, regardez, je veux dire, Connor Bedard cette année, Lafrenière joue pas sur la première vague d'avantage numérique. Puis un Panarin joue trois fois plus de temps de jeu en avantage numérique que Lafrenière cette année. Donc, si tu fais une règle de 3, là, il a 6 points cette année, Lafrenière, en avantage numérique. Tu fais une petite règle de 3, Panarin en a 44, là. Ouais. Coupe la pomme en... Même si tu coupes la pomme en 3, là, puis tu reviens à une vingtaine de points ou peu importe, là, soudainement, ben, le cap des 70, le cap des 80 points pour Lafrenière n'est pas très, très loin. Mais là, moi, ce que j'aime, c'est comment il joue en séries éliminatoires. Il utilise son poids, gagne son physique. Est un complément très intéressant à Panarin parce qu'il vient créer de l'espace autour du filet pour un gars qui est capable de mettre dedans, mais surtout qui est capable de passer comme Panarin. Là, tu es en train de développer une belle chimie. Surtout que là, ben, il est en train de... Il est encore... veut pas. Lafrenière est encore en apprentissage de ce poste à l'aile droite pour un joueur. Guillaume, tu le voyais quand il jouait junior. Je disais, c'était le meilleur joueur au Canada. Mm-hmm. Puis c'était un joueur d'aile gauche. Donc là, ce changement-là, il était majeur. C'est pas... Comment je dirais? Le développement d'Alexis Lafrenière n'a pas été une ligne droite par rapport à... d'autres espoirs qui entrent dans la Ligue à une position, sont placés sur le premier trio, sont placés sur le premier avantage numérique. Il y avait plus, pas de défis, mais il y avait la réalité qu'il se retrouvait avec une maudite bonne équipe en partant. Là.
Exact. Puis tu sais, je pense que c'est le joueur qui est sorti du junior avec... il venait de dominer pendant plusieurs saisons, avait pas vraiment... vécu d'adversité. Là, tu l'as dit, c'était le meilleur joueur au Canada à son année de repêchage. C'était la vedette partout où il passait. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il fallait s'attendre à ce que ça prenne du temps de son côté pour s'adapter. Après ça, il y a eu, bon, On l'a mis dans des rôles de profondeur aussi à certains moments, selon les entraîneurs, les différents entraîneurs qu'il y a eu avec les Rangers depuis son arrivée. Donc, c'est sûr que ça fait la différence. Mais moi, pour la première fois dans la Ligue nationale, je revois le Alexis Lafrenière que je voyais au niveau junior, qu'on a vu dominer au Mondial junior en 2020 à Ostrava, quand le Canada avait mis la main sur la médaille d'or. Lafrenière s'impliquait physiquement, gagnait ses batailles, noircissait la feuille de pointage, fait tout ça en ce moment avec les Rangers dans la Grande Ligue. Donc pour moi, c'est peut-être la confirmation de l'éclosion qu'on a vu se dessiner pendant la saison. Là. On voit vraiment les flashs du Alexis Lafrenière qui avait vraiment dominé à son année de repêchage.
Non, ouais, il n'y a pas de doute. Mais là, il faut voir si ça va se poursuivre, les gars. Le retour en force des Hurricanes, est-ce que vous y croyez jusqu'au bout ou les Rangers vont être capables d'aller chercher une dernière partie là, dans les deux qui restent? La prochaine, là, je pense que c'est jeudi du côté de Raleigh, si je ne me trompe pas. Là.
Ben moi, je continue de croire aux Rangers simplement parce que j'aime cette équipe, j'aime la profondeur, j'aime leur ligne bleue. Mais il reste potentiellement deux matchs. Pour moi, les Rangers doivent gagner sur la route à Raleigh, fermer les livres, puis on arrête cette série-là.
Guillaume?
Moi, j'étais allé avec les Rangers en 7, donc ça ne me surprendrait pas que les Hurricanes, devant leurs partisans, là, ça va être... honnêtement, tu sais, Raleigh, en tant que ville, c'est tel que tel, mais l'ambiance au match, quand les Hurricanes sont dans le match, puis quand l'enjeu est grand, l'ambiance est folle. Donc... d'après moi, les Hurricanes vont être capables de se servir de ça pour pousser la série en 7. Mais après ça, on retourne au MSG, les Rangers avec les grandes attentes. La pression va être là, mais je pense qu'ils ont l'équipe là, pour passer au tour suivant.
Mais justement, est-ce que maintenant la pression est sur les épaules des Rangers ou elle demeure encore sur les épaules des Hurricanes?
Non, elle commence à être sur les épaules des Rangers. Ouais. Pour moi, les Hurricanes restent en perdant au départ 3-0. C'est l'équipe qui avait rien à perdre, tout à gagner. Alors, je trouve qu'on a renversé un petit peu la vapeur. C'est les Rangers qui ont maintenant tout approuvé. Puis les Hurricanes, si jamais ils peuvent pousser cette série-là en 7, ben ce serait le conte de fées, la petite histoire Cendrillon du deuxième tour. Pression New Yorkaise.
Ouais, bon, parfait. Moi, je pense que tout va dépendre du jeu à 5 contre 5. Si on demeure à 5 contre 5, si on est discipliné chez les Hurricanes, je pense qu'on peut gagner le sixième match, mais... statistiquement, on l'a dit, là, 4 fois sur 209 là, depuis que c'est des 4 de 7. Donc, je vais quand même demeurer du côté des statistiques et me dire que les Rangers vont être capables d'aller en chercher un autre. Les gars, jusqu'à présent, ça regarde bien pour votre prédiction qu'on avait fait avant le début de la série pour les Hurricanes et les Rangers. Ça regarde moins bien sur ce que vous aviez dit pour l'Avalanche et les Stars. vous aviez tous les deux dit l'Avalanche et jusqu'à présent, ben, c'est une série qui est totalement l'avantage des Stars, qui pourrait être terminée, soyons francs. Si ça n'avait pas été de l'écrasement des Stars lors du premier match, cette série-là serait peut-être terminée en ce moment. Là, on est en train de réaliser que peut-être que la machine des Stars s'en est toute une.
Ben absolument. Puis les Stars, au premier tour, avaient dans les pattes les Golden Knights de Vegas, quand même les champions en titre de la Coupe Stanley. Ils ont réussi à gagner cette série en 7. Poursuivre contre l'Avalanche. On voit aussi, tantôt on parlait d'Alexis Lafrenière comme jeune joueur, mais Wyatt Johnston qui a 21 ans, Johnston transporte les Stars offensivement depuis le début des séries. C'est une équipe qui patine bien. Miro Heiskanen joue du hockey formidable. On parle toujours de Cale Makar comme un des meilleurs joueurs, mais depuis le début de cette série, Heiskanen n'a absolument rien envie à personne. C'est une équipe aussi, Pete DeBoer, chaque fois qu'il prend le contrôle d'une nouvelle formation, a réussi à faire de la petite magie en série. Donc, puis devant le filet aussi, Jake Oettinger ou Alexander Georgiev ont donné avantage à Oettinger, même si on pouvait prédire l'Avalanche. Oettinger, jusqu'à présent, ne déçoit pas. Mais tu te places aussi dans le vestiaire de l'Avalanche, tu es à quelques heures, je ne sais pas quand ils ont appris l'information, mais tu es à quelques heures de jouer un match crucial, match numéro 4 du côté de Denver. Et la nouvelle, Valérie Nichushkin, qui retourne au programme et qui a une suspension de 6 mois, ne veut pas l'image que ça projette au sein d'un vestiaire. Tu perds un des meilleurs joueurs, tu perds un coéquipier. Ça ne doit pas être évident non plus après ça de gérer cette situation-là à l'interne.
Non, effectivement, bon, c'est pour ceux qui ont pas entendu la nouvelle, donc de retour, c'est un retour pour Nichushkin dans le programme d'aide. Là, il va être dans la phase 3 du programme, donc suspension de 6 mois sans salaire avec une possible réintégration par la suite. Comme tu dis, bon, l'Avalanche, tu dois te tourner la page rapidement. Nichushkin qui était quoi, qui avait 10 points en 8 matchs, là, qui était parmi tes meilleurs marqueurs. 9 buts, une passe. Qui est aussi en avantage numérique, qui est le gros bonhomme qui va placer ses grosses fesses devant le gardien, devant Oettinger. T'es privé de Devin Toews aussi qui a été blessé durant la série. Donc là, ça commence à s'accumuler. Pour Nichushkin, bon, je sais ce qu'on peut dire. Visiblement, il y a des problèmes personnels qu'on se doit de régler. Je pense que Jared Bednar l'a dit ce matin. Je lui souhaite d'être heureux, là. Je lui souhaite de... Je sais pas s'il l'a dit ce matin ou hier, là. Mais tu sais, je lui souhaite d'être heureux d'avoir... Après le match, bon, qu'il a dit que je lui souhaite tout simplement d'être heureux, de nettoyer sa vie, d'être en santé. Puis bon, le hockey viendra par la suite. Mais effectivement, c'est une grosse distraction. Puis c'est une distraction qu'on n'avait pas besoin chez l'Avalanche, alors qu'on a été dominé dans toutes les rencontres de la série jusqu'à présent. Tu sais, c'est pas du tout serré. Puis je pense que ça en dit long sur la qualité. Avez-vous vu hier le jeu de Johnston sur le premier but qui a soulevé le bâton de Cale Makar? Pas n'importe qui. Il a battu Cale Makar sur une bataille pour la rondelle. Il a ramené ça devant, puis on a marqué le premier but. On en a parlé de la profondeur des Stars durant la série, mais là, on a présentement sur le premier trio Rupe Hintz qui n'a pas terminé le match d'hier, qui est possiblement... qui était même possiblement blessé avant, là, parce que jusqu'à présent, on ne connaissait pas des grandes séries Hintz. C'est un Wyatt Johnston qui prend la relève, qui avait seulement 20 ans. On lui souhaite bonne fête ce matin, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Mais c'est tout un joueur. Ça fait juste partie de cette profondeur-là chez les Stars, qui est probablement la meilleure de la Ligue.
Ben, je pense que j'ai l'impression que c'était exactement ce dont les Stars avaient besoin, parce que dans les derniers parcours éliminatoires, je me souviens l'an dernier, c'était encore l'équipe des vétérans, c'était encore les Jamie Benn, les Tyler Seguin. Quand ces joueurs-là ne produisaient pas, ben là, on pouvait commencer à faire une croix sur les Stars. Cette année, avec un jeune qui arrive, il est là depuis quelques temps, là, mais qui vraiment
c'est sa deuxième
produit,
saison,
s'impose, mm-hmm. Ouais, exact. Je pense que c'est vraiment le remède à ce que les Stars recherchaient, là, parce que on parlait d'une équipe vieillissante, il y avait quand même quelques jeunes morceaux, mais un Rupe Hintz, tu l'as dit, ne connaissait pas les meilleures séries jusqu'à maintenant. Puis l'année dernière, ben, c'était en Dancy, on se fiait beaucoup sur lui pour la production offensive. Puis souvent, il disparaissait parce que peut-être le style de jeu des séries lui convient un peu moins. Tu regardes Wyatt Johnston, c'est pas le gabarit d'un joueur de série, mais ce gars-là se présente à tous les matchs, puis vraiment se nourrit probablement de l'énergie des séries, parce que jusqu'à maintenant, c'est tout un élément là, du côté des Stars.
Ce qui est peut-être une bonne nouvelle aussi, on parle de la profondeur des Stars. Guillaume, tu parlais aussi du changement de la garde des plus jeunes. Il y a Logan Stankoven aussi, qui commence offensivement à montrer tout ce qu'il peut donner. Puis tu regardes aussi, on parlait des plus vieux, mais c'est pratiquement impossible que Joe Pavelski demeure aussi silencieux en termes de points. Il y a seulement une passe en 11 matchs depuis le début des séries. Tôt ou tard, Pavelski va dévier un tir, va finir par marquer. Donc, c'est encore une bonne nouvelle pour les Stars qui gagnent sans même la part offensive de Pavelski. L'an passé, je pense que c'était 14 points, dont 9 buts en série pour le bon vieux Joe, qui a beau avoir 37-38 ans, continue de produire offensivement en temps normal. Donc, je m'attends à le voir se réveiller là, d'ici quelques matchs.
Non, c'est effectivement, surtout que le jeu de puissance d'Avalanche depuis le début des séries, c'est 30,8%. On est deuxième. Pavelski, habituellement, va se stationner devant le filet, puis comme tu dis, dévie un lancer. On ne l'a pas vu jusqu'à présent. Mais
39 ans, Pavelski. Je l'ai rajeuni un petit peu.
Est-ce que c'est le joueur qui a le mieux vieilli dans la Ligue après 35 ans? Depuis Jaromir Jagr, ou je ne sais pas là, mais je veux dire...
Un de ceux qui vieillit bien. Joe Pavelski, sans trop faire de bruit, c'est possiblement un gars qui va rentrer au Temple de la Renommée à la fin de sa carrière. Là. Ouais. C'est un très, très, très bon joueur de hockey. Là.
Ouais, je pense que ça avait été un choix de sixième ronde.
Septième
ronde, mais il était rentré dans la LNH immédiatement de... dès la fin de son parcours universitaire, là, si je ne me trompe pas. Donc,
205e choix au total en 2003 des Sharks de San Jose. Mais ouais, après l'Université du Wisconsin, il a joué 16 matchs en Ligue américaine. Puis boum, on lui ouvrait les portes à San Jose.
Mais c'est une éthique de travail aussi, puis c'est une machine, là, Joe Pavelski, au niveau, au-delà de ses qualités de leader, puis tout ça, c'est un gars qui fait toutes les bonnes choses, puis qui sur la glace. Donc, comme tu dis, ça devrait débloquer, donc ça, c'est absolument pas bon signe.
Si tu regardes un entraînement des Stars, ou même à l'époque, les Sharks, Joe Pavelski, c'était toujours le premier sur la glace avec une chaudière de rondelles. Quand il jouait à San Jose, il demandait à Brent Burns de sauter sur la glace en même temps que lui. Puis il pouvait rediriger 50-60 tirs. C'est pas un hasard s'il est aussi bon pour faire dévier des rondelles. Il y a des heures et des heures et des heures d'entraînement derrière ça.
Non, effectivement. Le cinquième match de la série qui va avoir lieu mercredi, les gars, votre prédiction?
Ben là, ça... Moi, je pense que rendu là, honnêtement, les Stars, tu sais, j'ai eu le doute là, quand est venu le temps de faire mon choix, là, parce que la manière dont les Stars ont battu les Golden Knights, c'était quand même assez impressionnant. Mais là, rendu là, je pense qu'il faut tourner notre veste de côté, puis se ranger derrière les Stars. Dans l'Ouest, ça va être. On dirait que ça va être difficile à les sortir. Là.
T'en as parlé, mais justement, on l'oublie un peu, mais cette série-là contre les Golden Knights, veux pas les deux défaites qu'on a eues en partant, je pense que ça a peut-être été le réveil qu'on avait besoin chez les Stars pour se rendre compte que, oups, attendez, là, c'est commencé les séries éliminatoires, puis depuis ce temps-là, on a perdu deux matchs, là, mais ben, encore là, non, parce que je vais reprendre mes paroles, parce qu'on oublie que dans les deux premiers matchs, l'Avalanche est toujours bien revenue dans la rencontre. On l'a emporté dans le premier, on n'a pas réussi dans le deuxième, mais on apprend de nos erreurs. On semble à tout le monde apprendre nos erreurs du côté des Stars. Jeff?
Ben, écoute, c'est la série retourne du côté de Dallas. Techniquement, avantage aux Stars, mais je me dis que Nathan MacKinnon... Cotard va pratiquement gagner un match à lui tout seul. Jusqu'à présent, MacKinnon, 2 points dans le premier match. Ensuite, Blanchi au deuxième match. Blanchi dans le quatrième match. -3 dans le quatrième match. Je pense que c'est un athlète avec beaucoup de fierté. MacKinnon peut gagner un match à lui tout seul. Mais là, il est -5 là, pour l'Avalanche du Colorado. Je serais très, très, très surpris de voir cette équipe rebondir. Puis je pense que je reviens sur Nichushkin. Je continue de croire que ça a l'effet d'une bombe dans le vestiaire, puis ça va être difficile pour eux de se relever.
Non, effectivement. Je vais y aller moi aussi prochain match. Surtout de la façon qu'on a amorcé le match chez l'Avalanche hier, là, les tirs en première période, 16 contre 2.
C'était 22-4 pratiquement à mi-chemin pour les Stars.
Oui, exactement. Donc, après ça, bon, les Stars ont levé le pied, mais justement parce qu'on avait une bonne avance et on était correct, mais. Ça montre que cette équipe-là est vraiment en avance, puis comme tu as dit, là, avec tout ce qui se passe dans le vestiaire de l'Avalanche. Donc, ça devrait, à mon avis, se terminer mercredi. Ça a été beaucoup plus court, si c'est le cas, là, comme parcours en deuxième ronde pour les Stars par rapport au premier tour. Les gars, je vous amène... Jeff, on va parler de toi, vu que tu étais à Edmonton, on en a glissé un mot, mais cette série-là entre les Canucks et Oilers... qui se déroule peut-être pas comme on le croyait, c'est-à-dire que... Les Oilers, on pensait peut-être que ce serait un peu plus facile, qu'on allait brasser le jeune gardien Silovs des Canucks, mais attention, Arthur se fâche et les Canucks aussi.
Ben, je pense qu'on a sous-estimé premièrement les Canucks de Vancouver. On regardait le premier tour en disant c'est une équipe qui peine à marquer des buts. 13 buts seulement en 6 rencontres contre les Prédateurs de Nashville. Mais on a peut-être aussi commis l'erreur de se dire que Nashville était une petite équipe et que c'était un premier tour facile pour Vancouver. Je crois qu'absolument pas. Les Prédateurs, c'était, je l'avais dit dans le dernier podcast, mais une des meilleures équipes des derniers mois de la Ligue nationale de hockey. C'est une équipe aussi à la ligne bleue, là, il y a des tours humaines. Nikita Zadorov, Tyler Myers. Les Canucks perdent Carson Soucy pour le quatrième match. C'est quand même une lourde perte pour les Canucks de Vancouver.
Les gens qui nous écoutent, là, le match, les Oilers, Oilers-Canucks ce soir, Bruins-Panthers qu'on va parler par la suite aussi ce soir. Donc, quand vous nous écoutez, peut-être que c'est déjà joué, là, mais bon, bien évidemment, là, Ce qu'on dit là, c'est avant. On est mercredi, on est mardi matin, là, très tôt. Surtout pour toi, Edmonton, Jeff.
Ouais, non, il est encore tôt dans cette magnifique ville d'Edmonton. Honnêtement, une des perles du monde entier. Le Rogers Arena est fabuleux. C'est ce qu'on peut dire d'Edmonton.
Le West Edmonton. C'est parce que tu restes trop dans le temps. C'est trop dans le temps.
C'est loin, 5 minutes du centre-ville.
Dans le mot West Edmonton Mall, il y a West. Donc, il faut que tu partes vers l'Ouest. On n'a pas le temps de faire ça. Il y a deux sujets chauds en ce moment là, du côté des Oilers. L'identité du gardien partant, est-ce que Chris Knobloch va continuer de miser sur Stuart Skinner? À 95 ou même 99%, je dirais que oui. Hier, Connor McDavid a lancé un message clair en disant « On a toute la confiance du monde en lui, mais Skinner doit rebondir. » Il a fait face à la musique hier, disait que mentalement, dans le dernier match, ça a été une bataille pour lui. Il a trouvé ça difficile de se faire retirer de la rencontre. On a fait place à Calvin Pickard pour la troisième période. Skinner ensuite nous a fait rire en disant « Bon, mais les chiffres, normalement, ne mentent pas. » Si on regarde les chiffres depuis le début du deuxième tour, c'est horrible pour Stuart Skinner. C'est 12 buts accordés sur 58 tirs, taux d'efficacité de 793, moyenne de 4,40. Puis Skinner s'est repris un petit peu en disant « les chiffres ne mentent pas, mais probablement un peu ». Donc, il y a le sentiment qu'il y a quelques buts où les Canucks ont peut-être joué de chance, mais c'est une équipe qui, on dirait que Vancouver, dès que les Canucks obtiennent une chance, ils vont en profiter. J'ai hâte de voir aussi la dynamique. On a choisi de placer toutes les œufs dans le même panier. C'est McDavid, Draisaitl, Hyman. À la ligne bleue, tu as toujours Ekholm et Bouchard. C'est l'unité de 5 qui doit transporter les Oilers. Mais là, on donne pratiquement 30 minutes de temps de jeu à McDavid. C'est beaucoup trop. À un moment donné, il n'y aura plus de jus dans le citron. Est-ce que Knobloch va choisir de diviser le monstre à deux têtes et de replacer Draisaitl au centre du deuxième trio? Pour moi, la porte de sortie des Oilers, ils ont absolument, absolument besoin d'un réveil offensif de Nugent Hopkins, d'Evander Kane, même Corey Perry qui a 103 ans, qui patine plus, mais Perry doit finir par en mettre un dedans. Tu peux pas non plus demander uniquement à McDavid et Draisaitl de faire absolument tout sur la glace.
Ce matin, je voyais le collègue Frank Seravelli il y a quelques minutes qui disait que selon des sources, on irait peut-être du côté de Calvin Pickard la quatrième joute. Et d'ailleurs, le même Frank Seravelli, hier, je lisais un de ses textes très intéressants qui disait que des 69 gardiens depuis 2005 qui ont au moins 15 départs en série, Skinner affiche le pire taux d'efficacité à 881.
Oui, parce qu'on se souvient que ça n'avait pas été
depuis
facile.
Depuis 2005, là. C'est vraiment... Non, c'est ça. Fait que
ça
commence à être tendance là, assez claire du côté de Skinner en série, qui n'est pas capable de livrer la marchandise. En saison, ça se passe plutôt bien, mais là, tu sais, une fois qu'on rentre en série, c'est là qu'on a besoin d'un gardien au sommet de son art, puis c'est pas vraiment le cas du côté d'Edmonton.
Si on vous avait dit en début de saison que Calvin Pickard pourrait être le premier, le gardien numéro un, ou le gardien partant, devrais-je dire, lors d'un match des séries éliminatoires, alors qu'on avait Jack Campbell, souvenez-vous, et Stuart Skinner comme duo en début de saison, on se dirait, il y a des choses qui ont vraiment mal été. On verra bien. Mais moi, je veux savoir, JF, est-ce que Leon Draisaitl est à 100%? Bon, en séries éliminatoires, on dit tout le temps qu'il n'y a personne qui est à 100%. Pour se retrouver à gauche du trio de McDavid et non pas au centre de la deuxième unité, est-ce que, justement, par son état de santé, on ne peut pas le placer au centre présentement?
Mais c'est ce que Knobloch disait après le deuxième match du côté de Vancouver, quand il y avait un point d'interrogation au sujet de Draisaitl, est-ce qu'il était pour être en une forme ou non. Il disait qu'il voulait le protéger en l'utilisant avec McDavid, mais honnêtement, Draisaitl prend autant, sinon plus, de mise en jeu que Connor. Probablement incommodé par une blessure au dos ou aux côtes. Parfois le coup de patin, au troisième match, la première rencontre à Edmonton, sa première présence, je pense qu'il est tombé deux ou trois fois avec de petites poussées. Mais après ça, on dirait que le moteur diesel finit par tourner puis Draisaitl gagne son rythme. Écoute, s'il est blessé, il joue pas loin de 30 minutes par match. Donc, c'est pas comme si on voulait le préserver ou quoi que ce soit. Knobloch disait qu'au dernier match, quand les Oilers ont fini par C'était 1-0 Edmonton. Ensuite, Vancouver marque 3 buts assez rapides. Il dit c'était du hockey de rattrapage. Puis je voulais compter sur les deux plus gros chevaux ensemble avec Zach Hyman. Donc, s'est retrouvé un petit peu coincé. Tu disais tantôt, Nick, est-ce qu'on aurait pu prédire que Calvin Pickard obtiendrait peut-être un départ? Si c'est le cas, c'est une information qu'au moment où on se parle, les Oilers n'ont pas encore patiné. Donc, on ne connaît pas encore la réponse techniquement. Mais ils ont le fait miroir devant eux. Est-ce qu'on aurait pu prédire qu'Arthur Seelove serait le partant du côté des Canucks? Absolument pas. Puis Seelove, il débarque du côté de la Ligue nationale. C'est un jeune gardien, 23 ans. On dirait que la scène pour lui n'est absolument pas trop grande. Complètement naïf. Puis c'est une belle naïveté.
Ouais.
Dans les trois premiers matchs, là, chacun des matchs, le meilleur gardien jouait pour les Canucks de Vancouver. Il n'y a aucun doute. Seelove gagne présentement son duel contre Pickard. Je me suis amusé. Ça m'a pris une semaine avant de réussir à lui poser des questions sur Trois-Rivières. Mais quand j'ai eu la chance de lui parler de Trois-Rivières, Seelove me regardait avec des yeux. C'est comme s'il ne s'en souvient même pas du mois qu'il a passé avec les Lions de Trois-Rivières, tellement c'est lointain pour lui. Mais je trouve que ce qu'on a oublié de parler trop au sujet d'Arthur Seelove, c'est qu'il a gagné une médaille de bronze au championnat du monde avec la Lettonie. Il a permis à ce petit pays de hockey de grimper sur le podium à championnat du monde. Donc,
à la maison.
La pression, il en a déjà connu. Puis pour l'instant, il est loin d'être étouffé sous la pression. Edmonton, là, on crie Arthurs, Arthurs, Arthurs. On essaie de le déconcentrer. Il reste de glace. Au dernier match, là, si c'est pas de Seelove, les Canucks ne gagnent pas cette rencontre-là. Mais il fait le travail. Il est vraiment, vraiment solide pour un jeune gardien.
C'est quoi la clé?
J'ai adoré après un des matchs. Je pense que après le dernier match, un journaliste lui a posé. Qu'est-ce que tu as vu sur tel arrêt que tu as fait, l'arrêt spectaculaire que tu as fait contre Draisaitl à la fin de la deuxième période? Puis il a regardé le journaliste, puis il a dit « Which one? » Quel arrêt? Mais tu sais, c'était vraiment dit avec naïveté. C'était même pas une pointe aux Oilers. C'était vraiment juste « Je me souviens plus de cet arrêt-là. C'était lequel? » Donc, j'ai trouvé ça démontre quand même le calme puis le personnage Seelove en série.
Mais c'est pas le. Je veux dire, ben, à part ça, les gardiens sont toujours bizarres. Mais, mais c'est pas le premier gardien qui arrive en séries éliminatoires de nulle part puis qui se met à, comme on dit en bon français, à gauler sur la tête, là, à connaître des performances incroyables. J'aurais tout à l'heure en souvenir Johan Edberg avec les Panthers, ben avec les Penguins de Pittsburgh, alors qu'il y avait son masque.
Cam Ward,
et c'est ça. Et certains vont connaître des belles carrières, puis d'autres non, mais quand on dit vivre dans le moment, puis c'est ça que Seelove se fait présentement. Tout se passe, puis lui, il suit la vague, puis tout va bien.
Jordan Binnington aussi, puis petite anecdote au sujet de Jordan Binnington. C'était un jeune gardien qui avait fini par devancer Jake Allen à l'époque avec les Blues. Mais le matin, septième match de la Coupe Stanley entre les Bruins et les Blues au TD Garden, Jordan Binnington répondait aux questions des médias dans le vestiaire de l'équipe adverse. Souvent, un gardien, juste pour placer les choses en contexte, très, très souvent, un gardien ne parle pas le matin d'un match. Les équipes veulent que le gardien reste dans sa bulle. Mais du côté de Binnington, c'était peut-être justement la jeunesse, tout était beau, tout était nouveau. Ça ne dérangeait pas de parler. Puis plus tard, en soirée, par magie, même s'il avait parlé le matin, il bloquait des rondelles. Ça, c'est quand même intéressant.
J'aime beaucoup parler de cette histoire-là.
J'adore.
Ouais, la semaine passée, c'est qui aussi qui a donné comme exemple? C'était Martin Brodeur.
Ouais,
donc,
ouais, c'est ça.
Et GF reste...
Une anecdote de gardien qui parle... Par podcast.
Et qui gagne la Coupe Stanley, exactement.
Mais parlant de gardien qui parle, hier, parenthèse encore, mais Stuart Skinner, après le troisième match, a refusé de répondre aux questions des journalistes ici à Edmonton, était possiblement ébranlé. Mais hier matin, quand il s'est présenté, avant de répondre aux questions, s'est excusé de ne pas s'être présenté, de ne pas avoir osé braver la tempête. Quand même, moi, je tiens à lever mon chapeau pour Skinner qui a fait preuve de beaucoup de classe devant les journalistes d'Edmonton.
Non, parce que du côté des Bruins avec Jeremy Swayman, malgré les récents mauvais départs qu'il a connus, s'est toujours présenté devant les médias puis a répondu aux questions. Donc, C'est peut-être une tendance des gardiens qui parlent. Oui,
exactement. Bon, avant de, justement de passer à cette série-là avec les Bruins, c'est quoi la clé pour les Oilers? Est-ce qu'on doit trouver un moyen de brasser? Parce que là, on se fait brasser là, un peu par les Canucks. Est-ce qu'on peut répondre à ce jeu physique-là ou faut le contourner tout simplement? Là?
Mais moi, je pense que la clé, là, les deux derniers matchs, tous les buts proviennent de la grosse unité de 5. La clé, c'est d'obtenir de la profondeur, c'est d'avoir une attaque secondaire, c'est de permettre à McDavid et Draisaitl de respirer en achetant des buts qui vont provenir du deuxième, troisième, quatrième trio, chose que les Oilers sont incapables de faire pour l'instant.
Guillaume, bon ben on poursuit. Guillaume, la série que toi, t'as couvert, celle entre les Bruins et les Panthers, une série en deux temps. Il y a eu le premier match, puis il y a la suite. Puis, comme on dit, la crème finit toujours par monter. C'est pas l'expression. Je viens de faire la crème remonte toujours à la surface.
La crème remonte à la... Ouais, exact, c'est ça.
Bon, ben les crémeux dans cette série-là, c'est les Panthers.
C'est beau, les poètes.
Oui, merci. On salue Jean Perron, là, qui serait fier de ce que je viens de lancer. Mais justement, on a vu que dans une série, bon, un premier match qui était totalement à l'avantage des Bruins, peut-être parce que les Panthers étaient rouillés, mais bon, depuis, c'est complètement l'avantage de la Floride, cette série-là.
Ouais, puis tu sais, je pense qu'au niveau talent, profondeur, les Panthers ont plus d'outils que les Bruins, mais je me demande aussi s'il n'y a pas l'élément fatigue là-dedans là, qui entre en ligne de compte pour les Bruins, parce que honnêtement, dans les derniers matchs, là, cette équipe-là n'est pas l'ombre de ce qu'elle a offert contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour. Puis je pense que à un certain point, c'est compréhensible. Bon, on regarde le calendrier des Bruins depuis le match 5 contre les Maple Leafs. Bon, OK, on peut dire qu'il aurait dû gagner ce match-là. Il y aurait eu une semaine de congé probablement avant de partir le deuxième tour. Mais je pense qu'on est rendu à 6 matchs en 13 soirs du côté des Bruins avec des allers-retours entre Boston et Toronto, avec un voyage en Floride, un retour à Boston. Et là, on retourne en Floride pour le match numéro 5 ce soir. C'est un horaire qui est très chargé pour les Bruins. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de reprendre notre souffle, tu sais, puis d'arriver dans un match prêt. On a vu les mauvaises tendances de la première série, les mauvais débuts de match. Ça s'est reproduit contre les Panthers. On peine à créer des choses offensivement. On perd Brad Marchand en plus de ça. Moi, crédit aux Panthers parce que c'est une équipe qui frappe au bon moment, qui est vraiment, tu sais, je veux dire, on a beaucoup d'éléments offensifs, puis la défensive est solide. Même si Bobrovsky n'est peut-être pas le gardien le plus dominant en ce moment, on parvient à gagner des matchs. Mais je pense qu'il faut regarder aussi du côté des Bruins. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de jus dans le réservoir. Puis, c'est ce que Jim Montgomery disait après le deuxième match, là, la défaite de 5-1, je crois. 6-1, 5-1. Il avait dit on n'avait plus de jus. Puis ça, c'était au deuxième match. Moins de 48 heures plus tard, il jouait le troisième. Puis moins de 48 heures, on jouait le quatrième. Ça s'accumule, puis j'ai l'impression que les Bruins, c'est bien dommage, mais je me demande si on va être capable de reprendre notre souffle avant d'être éliminé.
À quel point est-ce que l'absence, la blessure de Brad Marchand est venue justement éteindre la dernière étincelle ou ce qui aurait pu rallumer cette équipe-là? Bon, il est pas là depuis quoi? Depuis la troisième, fin de deuxième, début de troisième période du deuxième match. Et on s'attendait à une réponse parce qu'on
disait... Troisième match,
exactement. Et on s'attendait à une réponse de la part des Bruins, mais on n'a quand même pas été capable de rebondir là, par la suite. Là. Donc, à quel point cette absence-là leur fait mal, pas juste au niveau production, mais au niveau culture de vestiaire, au niveau, tu comprends?
Ah, c'est énorme pour les Bruins. Brad Marchand reste le capitaine de cette équipe-là. C'est une équipe aussi qui, offensivement, a moins de talent que les Panthers. Si tu retires Marchand de l'équation... Ça donne un plus gros avantage aux Panthers de la Floride. Tu as Charlie McAvoy qui essaie d'être le joueur émotif en l'absence de Marchand, mais il ne peut pas non plus essayer de transporter l'attaque de la ligne bleue, essayer d'être le défenseur robuste, physique. Il y a des limites. Je crois, comme Guillaume disait, je pense que les Bruins se font rattraper aussi par l'usure. Trop de matchs, une série qui s'est terminée en 7, série émotive contre les Maple Leafs. Mais du côté des Panthers aussi, moi, les matchs des Panthers et des Bruins restent toujours la même soirée que ceux des Canucks et des Oilers. Puis souvent, je me retrouve à l'aréna à écouter le match avec d'autres journalistes. Puis il y a souvent le même commentaire, c'est Alexander Barkov, quel joueur de hockey. Puis les collègues à Edmonton, quand ils le regardaient, ils se projetaient un petit peu plus loin en disant « si jamais il y a une finale et que ce serait, on parlerait d'une finale entre la Floride et les Oilers, Barkov serait possiblement le pire ennemi de McDavid et Draisaitl, tellement il est bon, il est complet, il est gros. » Puis après ça, ben, tu ajoutes un Matthew Tkachuk, c'est une équipe, Carter Verhaeghe, c'est une équipe qui offensivement a beaucoup plus de munitions que les Bruins. Tu
n'as même pas parlé de Sam Reinhart et c'est quoi, 50 buts cette année? Là?
Désolé, j'ai Sam Reinhart aussi, Brandon Montour, Lundell qui est un jeune joueur, Sam Bennett qui est fatiguant, qui frappe, qui peut marquer, qui est l'équivalent d'un Brad Marchand pour les Panthers de la Floride, donc... Je serais surpris de voir les Bruins de Boston rebondir dans cette série.
J'ai dit 50 buts, j'ai juste été 57 buts, Reinhardt. Donc, il m'en manquait 7, mes excuses. Mais t'apportes un point intéressant, JF. Est-ce qu'on sous-estime la brigade défensive? Pas la brigade défensive, le jeu défensif des Panthers grâce à cette brigade-là. Mais en plus, quand on rajoute et Barkov et Lundell en attaque, qui sont deux spécialistes du hockey d'un bout à l'autre de la patinoire.
Je pense pas qu'on... Peut-être qu'on sous-estime parce qu'on porte pas vraiment attention aux Panthers en saison. Là,
chaque année, quand la question revient, qui est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue, c'est le fameux sondage qu'on passe à que les joueurs de la Ligue répondent, c'est Barkov qui est souvent celui qui sort.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on sous-estime la qualité de ce jeu-là, de cette équipe-là, avec la part de Barkov, comme on vient de parler, mais juste aussi ce qu'on a à la ligne bleue?
C'est une équipe extrêmement solide en défensive. Là. Je me souviens, au premier match, je me posais des questions parce que les Bruins ont complètement dominé en échec avant. Les Panthers avaient de la misère à sortir de leur territoire. Puis là, je me disais, ben c'est la recette qui a fonctionné contre les Maple Leafs. L'échec avant, on mettait de la pression en territoire adverse et tout ça. Mais à partir du deuxième match, là, la rondelle entre dans le territoire des Panthers, ressort immédiatement. Il n'y a pas de... Les Bruins ont de la misère à s'installer puis à commencer à bourdonner, à faire du cycling, comme on dit en anglais, à tourner autour. Honnêtement, ils sont tout simplement pas capables parce que les Panthers sont extrêmement structurés, mais aussi ont les éléments pour gagner les batailles le long des rampes. Ils jouent de manière tellement intelligente que c'est une ou deux passes puis la rondelle est sortie du territoire. Puis après ça, ben en transition puis en relance, c'est une équipe qui est extrêmement efficace aussi. Donc, c'est tout un casse-tête pour les Bruins, surtout avec l'état de santé du groupe, peut-être, puis l'état le niveau d'énergie aussi.
C'est moi une statistique que je remarque. Là. Deux statistiques, à vrai dire. Dans les matchs 2, 3 et 4, on n'a jamais atteint le plateau des 20 lancés pour les Bruins. Mm-hmm. Et Charlie McAvoy, il n'y a pas un tir dans la série. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'accès au filet des Panthers, hein, il y en a. On dit tout le temps, les joueurs, il faut mettre des rondelles au filet, mais à un moment donné, c'est parce que tu as bien beau essayer de la mettre au filet, si ça donne absolument rien, comme c'est le cas pour les Bruins présentement. Je veux dire que Charlie McAvoy n'est pas un seul tir, là, c'est assez flagrant sur la qualité du jeu des Panthers. Hein.
Puis souvent contre Toronto, on ramenait la rondelle à la ligne bleue, puis on dirigeait les tirs, puis après ça, on essayait de faire dévier, on créait, on générait des choses de cette façon-là. Le fait que McAvoy n'ait pas un tir, ça démontre à quel point on est tout simplement pas capable de s'installer. Puis du côté des Bruins, en termes de lancer au filet, je pense que dans le troisième match, il y a eu une séquence de presque 11. Plus de 11 minutes sans tir pour les Bruins au TD Garden dans un match qui était important. Là. C'était 1-1 dans la série. On avait la chance de prendre le contrôle. 11 minutes, c'est long, là, sans diriger de tir au but. Puis dans le dernier match, on a entendu les partisans des Bruins commencer à crier « shoot the puck, shoot the puck ». Au lieu de « we want the cup », c'était « shoot the puck ».« Shoot the... » Donc, c'est un message qui est...
C'est,
ouais, c'est du génie. Là. C'est du génie créatif.
Puis tu regardes aussi, Bill Zito a quand même fait du bon travail pour aller chercher des dernières, peut-être, petites pièces de casse-tête à son équipe. Oliver Ekman-Larsen, cet été, c'est un bon ajout, une bonne signature. Et puis, c'est quand même fascinant de voir que Nick Cousins, qui était peut-être une des meilleures pièces de la Ligue nationale cette saison, mais Cousins, présentement, ne joue pas. Mm. Ryan Lomberg, qui est un... Moi, je trouve que c'est un ailier d'énergie typique d'un quatrième trio. Lomberg ne joue pas aussi. Puis, c'est pas parce qu'ils sont blessés, là. C'est les 13e, 14e attaquants. On fait confiance à Steven Lawrence. On fait confiance à Kyle Okposo. Donc, Paul Maurice, là, il a plusieurs cartes devant lui. Peut choisir les cartes à sa disposition. Peut-être qu'on a voulu s'éloigner d'un Cousins qui est un joueur émotif, justement, dans une série contre les Bruins de Boston. Question qu'on reste discipliné. Mais si jamais il y a un ou deux attaquants qui tombent, bien, il y en a d'autres qui vont venir prendre la relève rapidement du côté des Panthers.
Maurice disait justement que quand Sam Bennett est revenu au jeu, il dit qu'il y a un joueur qui va perdre sa place dans la formation qui ne mérite pas de perdre sa place. Donc, je ne pense pas que... Je pense pas que c'est contre Cousins, c'est plus que on a tellement d'éléments, on a tellement de profondeur qu'il faut faire des choix. Puis même du côté de Lomberg, il disait c'est un joueur, je connais sa valeur, mais le quatrième trio joue tellement bien que je vois aucune raison de changer la formule en ce moment. Donc ce sont des joueurs qui doivent attendre leur tour, qui sont peut-être victimes de la profondeur, mais la profondeur est une très bonne chose à avoir en série.
Oui, effectivement. Est-ce que ça se finit ce soir, les gars?
Je pense que oui. Mais sait-on jamais, tu sais, un dernier souffle, un dernier regain de vie pour les Bruins, peut-être une victoire chanceuse, un but inespéré, quelque chose comme ça. Tu sais, au dernier match, on a été opportunistes en première période. On avait une avance de 2-0. Je pense que cette défaite-là va peut-être avoir laissé des traces. Je suis pas très confiant, mais sait-on jamais là, avec ces Bruins. Peut-être un petit sursaut avant de mourir en paix.
De s'éteindre. Jeff?
Non, terminé ce soir. Ouais. Guillaume ne partira pas pour Boston. Je sais que Guillaume a un amour pour cette belle ville au printemps, mais non, je pense que ça se finit à Sunrise, dans les quenouilles du magnifique aréna du côté de Sunrise où tu as vu sur un centre d'achat ou des autoroutes.
À mon départ de Boston, j'ai fait mes adieux à la ville. Bon. J'étais conscient que c'était peut-être ma dernière présence là ce printemps.
Une scène émotive.
Moi aussi. Écoute, tu iras en Floride, à New York ou en Caroline par la suite.
Peut-être dans l'Ouest.
Peut-être dans l'Ouest. Mais avant tout ça, tu vas rester à Drummondville. Guillaume, parle-nous un peu de la finale de la LHJMQ. Tu as décidé d'aller faire un petit tour là pour... ça pourrait somme toute se régler ce soir, là, en ce mardi soir, parce que c'est une série qui est à l'avantage des Voltigeurs là, jusqu'à présent.
Ouais, les Voltigeurs qui ont les devants 3-0 pourraient remporter le trophée Gilles Courteau pour la première fois depuis 2009 devant leurs partisans ce soir. J'ai fait des cauchemars en repensant aux klaxons et aux crécelles.
Ça semble être la série des décibels, là, parce que aussi au centre Henri-Léonard à Bécomo, on a la flûte facile, comme on dit.
Flûte facile. Mais non, honnêtement, je l'ai écrit, j'ai écrit une petite carte postale parce que je trouvais que c'était toute une ambiance de série hier. En plus, les Voltigeurs qui ont gagné 6-2 ont pris les devants 4-0 en première période. C'était vraiment déchaîné là, au centre Marcel Dion. Mais le recruteur des Penguins de Pittsburgh, Luc Gauthier, quand il m'a vu arriver, il dit « As-tu amené tes bouchons? » Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Oups, j'ai peut-être... oublier un certain élément. » Heureusement, j'avais mes écouteurs que je porte en ce moment pour couper le bruit, mais on a montré un sonomètre à l'écran géant pendant le match. On a atteint 112,2, puis je suis allé faire des recherches et 120 décibels, c'est le seuil de la douleur pour l'oreille humaine. Donc, je vous laisse imaginer à quel point c'était bruyant hier. Ce soir, ça risque de l'être encore plus parce que on a la chance de mettre la main sur le gros trophée puis d'obtenir notre billet pour la Coupe Memorial. Ce serait tout un accomplissement là, pour les Voltigeurs. Puis ce serait le fun, honnêtement, que ça sans rien enlever au dracard et tout ça, là, mais juste pour le moment de voir l'équipe gagner le trophée à la maison, ben. C'est toujours bon. Ça donne toujours des bonnes histoires.
Mais une belle histoire aussi pour Étienne Gauthier, qui est un petit gars de la place de Drummondville, qui est à une victoire là, de réaliser probablement un rêve d'enfance que de gagner la Coupe du Président dans l'uniforme des Voltigeurs. Son père, Denis, qui a joué pour les Voltigeurs aussi, donc quand même intéressant.
Non, oui, effectivement. Puis, je veux dire, est-ce qu'on s'attendait à ce que ça soit une série à l'avantage de la sorte des Voltigeurs? Parce que c'était quand même...
Ben, tu sais, le Drakkar a été la meilleure équipe tout au long de la saison, donc on s'attendait à une longue série, mais... Tu sais, j'ai pas vu les deux premiers matchs. J'étais encore sur la route pour les séries de la LNH, mais le match d'hier, le Drakkar était complètement à plat, puis les Voltigeurs ont pris le contrôle de ce match-là. Je parlais justement avec Luc Gauthier, il dit c'est pas des excuses, mais le Drakkar a affronté trois formations des Maritimes dans les trois premières rondes, puis on s'est rendu là en autobus, alors que les Voltigeurs, on a joué, contre Saint-Jean aussi, mais... Au total, je pense que le nombre de kilomètres parcourus par les Voltigeurs...
Ils ont joué contre Sherbrooke aussi, non?
C'est assez proche.
Oui, c'est ça. Ils ont affronté Sherbrooke, ils ont affronté Victoriaville aussi. Là, donc, tu restes pas mal sur la 55, là, c'est pas compliqué.
Exact. Il y a eu Saint-Jean qui était plus loin, mais après ça, on est resté pas mal autour de la maison. Donc, est-ce que l'élément fatigue, encore une fois, peut-être que ça joue un rôle, mais tu sais, au niveau de la profondeur, tu regardes la formation des Voltigeurs et Maverick Lamoureux n'est même pas là en ce moment. Là. Il est blessé, ne devrait pas revenir au jeu, là, même s'il y a une participation à la Coupe Memorial, mais cette équipe-là a été bien bâtie. On a de la profondeur à chaque position. Riley Mercer, le gardien qui a connu une séquence là, de deux matchs et deux périodes, presque deux périodes là, sans donner de but dans cette série-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de lacunes du côté des Voltigeurs, puis ce soir avec l'énergie de la foule, là, à moins qu'on commence à voir trop loin puis à s'imaginer avec la coupe au bout des bras, je pense que les Voltigeurs, ils ont l'expérience, ils ont la profondeur pour mettre un terme à cette série-là ce soir.
Oui, parce que tu parlais de proximité, c'est plus long pour le Drakkar de Bécancour. Non, c'est plus court pour les Voltigeurs de Drummondville d'aller jouer à Sherbrooke, aller-retour, que pour le Drakkar de seulement traverser le fleuve. Là. Donc, c'est selon Google. J'ai regardé le Google Maps, ça dit 2h46 le traversier. Là. Donc, non, c'est une réalité. Ouais. C'est la réalité des marchés éloignés un peu, là, quoi que ils sont presque tous là, maintenant. Là. C'est quand même plus... c'est plus l'époque où il y avait une équipe à Verdun, une équipe... Ou aller jouer un match à Chicoutimi, c'était de la grosse préparation, là, parce que tu revenais pas le même soir, il fallait que tu couches là. Donc, c'est pas la même réalité. Bon, fait que ce soir, tu vas être là, on va pouvoir... on va pouvoir lire ça demain sur le site de lnh.com selon si ça se termine ou non et selon, par la suite, si tu dois retourner à Boston.
Oui, on verra, mais je n'y crois pas.
C'est bon. Hey, les gars, merci d'avoir été avec moi ce matin. Très, 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 très de bonheur pour ce balado.
Toujours un plaisir.
Donc, on va suivre ça. GF, on va pouvoir lire tes textes sur le match des Oilers demain matin sur le site de lnh.com. Et bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter, Threads et Instagram. Comme ça, parce que les séries éliminatoires, c'est loin d'être terminé. Et tous nos correspondants un peu partout en Amérique du Nord sont là pour vous renseigner. Et suivez-nous, abonnez-vous si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, le balado, suivez-nous sur les plateformes de diffusion, comme ça vous êtes certain de ne pas rater le prochain podcast qui, va peut-être être avec vous deux messieurs, sinon, ça sera avec Sébastien Hugues ou peu importe, on verra à ce moment-là. Un gros merci encore d'avoir été là et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.